France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Nous sommes le samedi 19 octobre. Soyez les bienvenus sur France Musique. Laurent Lefrançois est à la réalisation, Valentin Bobinet et Emmanuel Rose à la technique. Bienvenue dans cette émission que nous consacrons aux pratiques amateurs, au chant choral, à la pédagogie, au plaisir de la musique tout simplement. Alors le menu du jour le voici à 8h. Christophe Chassol nous fera découvrir l'univers du flûtiste indien Hari Chaurasia. À ses côtés un jeune trio de flûtistes. À 8h15, le chef David Mollard-Soriano évoquera ses premiers pas de musicien. À 8h20, notre reportage, on s'intéressera à la connotation péjorative du mot amateur. Dans sa chronique « Battement de cœur », Marc-Olivier Dupin évoquera la polyphonie vocale par le biais des grandes masses chorales. Ce sera à 8h30. Notre invité à 8h40 sera Alexandre Aymard-Dunker, qui co-dirige le festival Voix d'automne à Évian-les-Bains. Et puis enfin, Roselyne Bachelot nous parlera des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau à l'affiche de notre soirée opéra sur France Musique. Très très bon réveil à notre écoute.
Thank you.
Le premier mouvement du deuxième concerto pour piano de Sergei Rachmaninov, magnifique disque du pianiste sud-coréen Dong Hyek Lim, sorti il y a un mois à peine, accompagné ici par le BBC Symphony Orchestra. Alexander Vedernikov à la direction. Dong Hyek Lim, protégé de Martha Argerich. On retrouve d'ailleurs sur ce double disque une version pour deux pianos des danses symphoniques de Sergei Rachmaninov, toujours avec Martha Argerich, justement. Un album à ajouter de toute urgence à votre discothèque.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et chaque semaine, je sélectionne pour vous un livre disque ou une bande dessinée, un livre pour faire découvrir la musique classique, la musique aux enfants. Et bien aujourd'hui, j'ai jeté mon dévolu sur « Je chante avec mon bébé » d'Agnès Chaumier, paru au Merle Moqueur. C'est un livre CD qui rassemble 107 chansons et berceuses tout particulièrement adaptées à la petite enfance, avec pour chacune d'elles les paroles, un commentaire sur son rôle dans l'éveil de l'enfant, une illustration et puis un enregistrement. C'est un livre disque qui s'adresse aux parents et aux enfants jusqu'à 3 ans. Alors voici pour vous ce matin une jolie berceuse d'origine comorienne que l'on peut entendre dans cet ouvrage.
Moulelo uche un lele ba moana yele eloa e oule la mou gamoulelo e moana gamoulelo gamoulelo e moana gamoulelo gamoulelo uche un
Gamou Oulélo, berceuse d'origine comorienne, un extrait de ce livre CD « Je chante avec mon bébé » d'Agnès Chaumier, que vous pouvez retrouver sous le label Enfance et Musique au Merle Moqueur, avec donc ces berceuses qui s'adressent aux enfants jusqu'à 3 ans à découvrir. France Musique, il est 7h46. Thank you. Esa-Pekka Salonen, la Symphonia Grand Jola qui signe pour ce scherzo extrait de la troisième symphonie de Beethoven, enregistrement live, qui signe d'ailleurs la naissance au disque du Symphonia Grand Jolac, orchestre créé en juillet 2018 à l'occasion des rencontres musicales d'Évian et composé de musiciens issus des plus grands orchestres européens, mais aussi de groupes constitués comme le Trio Karénine et le Quatuor Eben qu'on connaît très bien, un peu sur le modèle de l'orchestre de Lucerne si vous connaissez, fondé par Claudio Avado à l'époque. Disque live donc avec sur lequel on peut entendre également les Métamorphoses de Strauss, disque qui paraît sous le label Alpha. 7h52, je vous propose de gagner ce matin sur France Musique des places pour aller voir l'opéra Manon de Jules Massenet en direct du Metropolitan Opera au cinéma. Ce sera le 26 octobre prochain au cinéma Mégarama de Bordeaux. La séance est à 18h55 et dans cette production signée par le metteur en scène français Laurent Pelly, des étoiles de la scène montante américaine seront à l'affiche. Lisette Oropesa ou encore Michael Fabiano. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous donnez vos coordonnées et puis la bonne réponse à la question qui va suivre et vous recevrez peut-être deux places dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Ce matin, je vous propose de tendre l'oreille, de deviner à qui appartient la voix que nous allons entendre. Trois propositions, est-ce Angela Giorgio, Beyoncé ou Mireille Mathieu? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
Je suis encore
Encore tout étourdi, air de Manon, ici dans cet opéra de Jules Massenet, interprété par l'Orchestre Symphonique du Théâtre de la Monnaie. Antonio Papano à la direction, mais à qui appartient cette voix? Angela Giorgio, Beyoncé ou Mireille Mathieu? Bien, si vous connaissez la réponse, rendez-vous sur francemusique.fr pour tenter de remporter vos places pour aller voir cet opéra Manon de Jules Massenet au cinéma. En direct du Metropolitan Opera de New York, ce sera donc le 26 octobre prochain. Il faut vous rendre pour cela au cinéma Mégarama de Bordeaux. La séance est à 18h55. Manon de Jules Massenet, production signée par le metteur en scène français Laurent Pelly. Bonne chance à tous.
Bonjour, c'est Laurent Valero. Le dimanche sur France Musique, de 19h à 20h, on pose l'oreille sur un thème célèbre que je vous propose de redécouvrir dans ses plus belles versions. Surtout, ne décrochez pas. Repassez-moi le standard, le dimanche à 19h sur France Musique et francemusique.fr.
L'orchestre, comment ça marche ? Je vous invite à un voyage au cœur de l'orchestre pour explorer les rouages de cette étrange communauté humaine où 100 personnes jouent comme une seule. Rendez-vous au cœur de l'orchestre tous les dimanches de 9h à 11h sur France Musique et francemusique.fr.
Un rendez-vous en partenariat avec Le Figaro.
Sur francemusique.fr, cette web radio vous accompagne au fil de vos envies, toutes en illimité. La BO musique de film, un concentré de cinéma en musique. Et aussi, Classic Easy, Classic Plus, concerts de Radio France, la jazz, la contemporaine, musique du monde Okora. Cette web radio sur francemusique.fr.
Je vous... vous souhaite un excellent début de journée à l'écoute de France Musique. Il est 7h59 minutes.
Chère auditrice, chère auditeur. Chère auditrice, chère auditeur.
Bonjour Dounia, bonjour Rime et bonjour Quentin.
Bonjour.
Vous êtes le trio formidable et vous accompagnez Christophe Chassol pendant tout ce mois d'octobre. Bonjour Christophe.
Bonjour, j'en ai de la chance.
Oui, c'est vrai que vous êtes gâté, hein, non pas un musicien mais trois. Trois musiciens qui étudient au Conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers-La Courneuve. C'est Sophie Dié, leur professeur, qui a soumis leur candidature pour participer à cette chronique. Hein. Vous pouvez le faire vous aussi, chers auditeurs, si vous vous sentez l'âme eh bien, de prendre un cours avec Christophe Chassol. D'ailleurs, Christophe, qu'allons-nous apprendre avec vous aujourd'hui?
Eh bien, nous allons apprendre. Nous allons nous plonger dans un bain de musique indienne.
Ah, ça me plaît bien, c'est un programme.
En la personne de Hariprasad Chaurasia, les amis, c'est un flûtiste, c'est un dieu là-bas en Inde. Hein. C'est quasiment une divinité. Il joue du bansuri, quoi, la flûte indienne.
Flûte traversière indienne.
En bois, en bambou, et avec laquelle on joue, on bouche les trous avec les phalanges en fait. C'est hyper dur à jouer. Les trous sont hyper écartés. Et moi, j'ai vachement de mal à en jouer, personnellement. Alors, la musique indienne, elle est intéressante parce que elle n'a besoin que de la basse et de la mélodie. En gros, là, on va écouter Chaurasia. Il y a une basse qui est jouée par, en gros, le tampura. C'est un gros instrument avec à cordes, quand même, qui fait une note de basse avec des harmoniques. Là, c'est un mi. En l'occurrence, ce sera un mi. Alors, le raga en question, là, dans ce qu'on va écouter de Hariprasad Chaurasia, c'est celui-ci. Déjà, est-ce que vous voulez me jouer ces notes? Vous pouvez jouer. Tiens, essayez d'improviser avec ces quelques notes. Vous pouvez jouer tout ce que vous voulez comme notes qui sont là-dedans. Qui pourrait me jouer un beau gros ré dièse en même temps là? Oh, tu sens cette dissonance? Et maintenant tu vas vers le mi. Tu sens comment ça, on est satisfait? Il y avait une dissonance, ça c'était dur, et puis tu glisses vers le mi, vas-y encore une fois. Allez-y aussi derrière. C'est très bien. On va écouter un petit peu ce que ça donne. Le premier extrait, c'est la lap. C'est le moment où on expose les notes du morceau. Vous voyez, il revient toujours. Alors, par exemple, là, on a entendu une phrase. On va l'écouter en boucle après, mais écoutez cette phrase. C'est pour vous conseiller de relever les solos, c'est-à-dire de trouver les notes qu'il y a dans les musiques que vous écoutez. Et donc pour ça, vous prenez votre ordi, vous mettez le morceau dans n'importe quel logiciel et vous faites une boucle avec. C'est ce que je vous ai préparé là. Et comme ça, on va écouter les notes qui sont jouées. C'est ça. On peut écouter la boucle, s'il te plaît, juste après. Voilà, moi ce que je vous conseille, donc c'est ça. Prenez votre ordinateur, mettez les morceaux que vous aimez dedans et faites des boucles avec. Et comme ça, vous travaillez, vous relevez chaque note. C'est très important, c'est comme ça qu'on développe l'oreille, quoi. Et là, en l'occurrence, c'était donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Ré, Mi, Fa. Voilà, un gros bain de musique indienne. On va réessayer un petit peu là. Je vais vous redonner les notes. en question, et puis vous allez improviser par-dessus. Par exemple, Quentin, tu commences, et ensuite tu te fais rejoindre par Rime, puis par Dounia. Ok ? Tu me fais quelques... Tu peux improviser, vas-y. Faites-moi tous les trois un beau gros ré dièse par-dessus ce mi, en même temps. Et il va glisser vers le mi. Encore. C'est beau.
Eh bien voilà, apprendre à improviser presque comme Chorazia.
Comme
merci Christophe, merci Dounia, Rime et Quentin. Il nous reste encore une chronique ensemble, ce sera bien sûr la semaine prochaine. On dévoile déjà quelque chose à propos de la semaine prochaine, Christophe ?
Oui, bah, la semaine prochaine, je pense qu'on va, essayer de vraiment faire un morceau, ensemble, c'est-à-dire de composer un morceau ensemble. Mmh. On va trouver des techniques pour écrire un morceau.
Eh bien, rendez-vous à 8h, samedi prochain, sur France Musique, bien sûr. Vous pouvez réécouter ces chroniques et les partager sur francemusique.fr, bien sûr. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine.
Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le doigt, à la mode, on les plante avec le doigt, à la mode de chez nous.
Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux?
Moi, je sais.
À la mode de chez nous.
On les plante avec le pied, à la mode, on les plante avec le pied, à la mode de chez nous.
Savez-vous planter les choux, à la mode, savez-vous planter les choux, à la mode de chez nous.
On les plante avec la main, à la mode, on les plante avec la main, à la mode de chez nous.
Monsieur Bourville.
Oui.
Savez-vous les planter, les choux?
Ah, je pense bien. Je suis assez intelligent pour ça.
Ah?
On les plante avec les genoux, à la mode, on les plante avec les genoux, à la mode de chez nous.
Et vous, monsieur Laforgue, savez-vous planter les choux?
Bien sûr.
Ah?
Papa m'a appris. On les plante avec le nez, à la mode, on les plante avec le nez,
ça se fait
à
mal.
La mode de chez nous. Et vous, Pierrette Bruno, vous savez les planter, les choux?
Oh, mais je sais très bien.
Hein?
On les plante avec le coude, la mode, la mode. On les plante avec le coude,
elle est intelligente
à la mode
aussi.
De chez nous.
Nous savons planter les choux, à la mode. Nous savons planter les choux, à la mode de chez nous.
Cette voix mémorable, inimitable, celle de Bourville, pour cette chanson « Savez-vous planter des choux ?» extrait de ce double disque qui paraît chez Frémo et Associés. Double disque sur lequel on retrouve toutes les chansons que Bourville a enregistrées pour le jeune public. C'était à la fin des années 50, un pan un peu moins connu de sa carrière, à redécouvrir de toute urgence.
1, 2, 3.
Tu vois, toi, t'as de la chance de faire de la musique. Pourquoi n'en fais pas ?
Et chaque samedi matin, nous nous intéressons à la pédagogie, à la transmission, aux pratiques amateurs, ces amateurs qui jouent pour leur propre plaisir. C'est d'ailleurs par là que tout a commencé pour les musiciens professionnels. Et ce matin, j'ai demandé au chef David Molard Soriano de nous raconter ses débuts et l'impact de la musique sur sa vie.
Que me procure la musique ? C'est une question vachement large. La musique me procure, comme beaucoup de musiciens, plein de choses, parce qu'on a la chance de faire un métier passion, donc... La performance musicale procure beaucoup de choses sur scène en termes émotionnels évidemment, mais de recherche, de comment dire, de amélioration de nous-mêmes, de la recherche de la perfection du son, de ce qu'on va faire. C'est assez difficile de mettre des mots dessus en fait, parce que c'est quelque chose de très émotionnel, donc c'est quelque chose qu'on ressent plutôt. C'est une manière de se surpasser toujours, d'aller toujours plus loin. Techniquement, donc ça c'est pour tout le monde, les instrumentistes, les chefs, les chanteurs, d'aller plus loin nous-mêmes dans notre... et donc, pareil, dans la construction de nos vies, aller plus loin musicalement, ça nous permet aussi d'aller plus loin nous-mêmes en tant que personne, tout simplement. Il y a des professeurs qui m'ont marqué, mais dont un particulièrement, puisque après avoir étudié avec lui, j'étais son assistant, c'était Paavo Järvi, qui était directeur musical de l'Orchestre de Paris. Et qui a été d'abord mon professeur, puisqu'il donne des masterclass tous les ans à Pärnu, en Estonie. Et ça a été un peu une rencontre décisive, puisque sa pédagogie à lui était orientée sur l'amélioration de ce que nous, on propose, et non pas le changement de notre personne, donc de nous en tant qu'interprète, dans ce que lui pense, donc ça parle notamment des gestes aussi. Il prend ce qu'on est, il nous transforme pas en autre chose, il essaye d'améliorer ce qu'on est pour aller au plus loin. Donc c'était très décisif et marquant comme pédagogie, puisque moi à l'époque je sortais de mes études à l'école normale. Où l'enseignement était très bien, où c'était un enseignement un peu plus qui m'a permis de d'approfondir la technique et de sortir de cette école en ayant des bases solides dans tout ce qu'on peut nous demander en tant que chef. Et finalement, Paavo est arrivé au bon moment, si j'ose dire, puisque sur ces bases-là, j'ai pu construire avec lui ce que je suis aujourd'hui et ce que je continue évidemment à construire. Mais oui, Paavo est certainement un de mes profs les plus marquants. Dans l'apprentissage de chef d'orchestre, le difficile, c'est la patience, puisque c'est un métier qui s'apprend toute la vie, puisque c'est une carrière qui est longue à construire. C'est beaucoup d'abnégation, en fait. Il faut savoir, prendre les opportunités quand elles arrivent, mais aussi il faut savoir être patient, ne pas croire qu'à 25 ans, on est capable de diriger tous les orchestres du monde et apporter une vision nouvelle sur toutes les œuvres, puisqu'on a besoin de maturité, on a besoin de grandir, on a besoin de voir, de découvrir. L'apprentissage en lui-même des matières théoriques, puis de la direction à proprement parler, de la gestuelle et tout ça, pour moi, après d'autres auraient d'autres avis, mais pour moi, ça n'est pas quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose qu'il faut apprendre, il faut être le plus érudit possible, pratiquer plusieurs instruments. Mais c'est après, dans la manière de concevoir notre métier, où la patience est quelque chose de très important, parce que sinon... On peut rapidement perdre pied parce que on voit tous les collègues qui ont le même âge et qui font d'autres choses, etc. Et donc faut savoir être patient, il faut savoir ne pas être jaloux et se réjouir de ce que les autres font aussi. Le conseil que j'aimerais donner aux amateurs, aux jeunes qui veulent se mettre à la musique et peut-être à la direction d'orchestre, c'est de jamais lâcher, de bien s'accrocher, parce que si on est suffisamment passionné, la musique comporte quand même des côtés où qui sont parfois pas très agréables. Parfois on a envie de jeter l'éponge parce qu'on n'y arrive pas, que ce soit en instrumentiste ou même en direction d'orchestre, tout simplement. Et il faut s'accrocher aux moments enthousiasmants, qui sont rares, qui sont tout à fait éphémères. Et c'est un peu ça le salaire de la musique, et le salaire pas que pour les professionnels, aussi pour les amateurs, de pouvoir faire un concert en ensemble ou en musique de chambre ou tout seul et en tirer une grande émotion et beaucoup de profit personnel. Donc il faut jamais lâcher. Si on a la passion, si on a la fibre, il faut jamais se laisser décourager par tous les obstacles que la musique peut procurer, parce qu'il y en a quand même, certains. Voilà, c'est un peu mon conseil, c'est faites de la musique, surtout.
Un extrait de La Mer de Claude Debussy, deuxième mouvement Jeu de vagues, interprété ici par l'Orchestre des Jeunes d'Île-de-France, dont le directeur musical est David Mollard-Soriano, qu'on écoutait un petit peu plus tôt. David Mollard-Soriano et cet Orchestre des Jeunes de l'Île-de-France qui seront en concert le 25 octobre prochain. Ça se passe au Conservatoire Régional de Paris, dans le 8e arrondissement, concert à 20h, avec notamment au programme Le Festin de l'Araignée d'Albert Roussel et L'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky. Et puis David Mollard-Soriano est assistant d'Emmanuel Krivine depuis le début de cette saison. Et dans le cadre de cette fonction, il dirigera aujourd'hui l'Orchestre National de France à l'Auditorium de Radio France à 16h pour un récital dessiné, un concert qui s'adresse aux enfants à partir de 5 ans, concert inspiré de la bande dessinée Écho Lila de François Hollislager, qui est paru aux éditions Actes Sud, un conte raconté grâce aux dessins réalisés en direct par l'auteur et par les musiciens, qui joueront des extraits d'œuvres pour orchestre à cordes de Dvorak, Britten, Bizet ou encore Chostakovitch. Il reste encore quelques places pour ce concert. Donc tout à l'heure, 16h ici à l'auditorium de la Maison de la Radio. Il est 8h20.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et c'est l'heure de notre reportage. Bonjour Marie Vickel.
Bonjour Saskia. Tes petits tours de passe-passe sont pas très efficaces. Tu n'es qu'un orgueilleux qui se prend pour un dieu. Ta folie des grandeurs n'est pas à la hauteur. Tu n'es qu'un amateur.
Le mot amateur sert parfois d'invective gorgée de mépris, comme ici dans la bande-son d'Aladin de Disney. Mais attention, les amateurs n'ont pas dit leur dernier mot. Il y a 3 ans, la chaîne régionale France 3 Grand Est proposait un reportage sur Brice, un compositeur amateur.
Ce n'est pas encore son métier, mais ce compositeur de musique de film a ce talent. Une simple émotion lui inspire une musique, une atmosphère.
Il n'y a pas de règle, ça vient un peu sans qu'on s'y attende. C'est-à-dire, par exemple, l'autre jour,
ce formateur de moniteur d'auto-école installé près de Nancy s'est un jour fait repérer par une entreprise située outre-Atlantique, un établissement qui travaille sur les bandes-sons des films hollywoodiens et qui souhaitait justement collaborer avec cet amateur. Un destin incroyable qui redore un peu le mot amateur à la mauvaise réputation, Marie.
Oui, et si l'on consulte la définition du dictionnaire Larousse, le mot amateur est collé à l'adjectif péjoratif. Étonnant lorsque l'on se penche sur l'étymologie de ce nom grâce aux lumières de l'écrivain et amateur de la langue française Alfred Gilder.
Le mot amateur vient du latin amator, T-O-R, qui veut dire celui qui aime. Cette dérive péjorative du sens du mot, ça remonte à Becherel, le grammairien lexicologue Becherel, qui, en 1848, a dit que ce mot peut avoir une connotation péjorative. En musique, on attend, on espère et on veut de l'excellence. Et l'excellence, c'est le fait des professionnels.
Le spécialiste de la langue française en profite pour nous rappeler que le mot amateur n'est pas le seul lexème, le seul mot au destin tragique.
Vous avez la même évolution négative pour un autre mot, dilettante, qui vient de l'italien. Dilettante, celui qui aime et s'y connaît. Et pour dilettante, la même évolution négative à tort, on dit, c'est un dilettante. Il se comporte comme un dilettante, ça ne fait pas sérieux, vous voyez.
La leçon de français est terminée, Saskia. Allons faire un tour du côté de la perception du mot par notre société. Cette fois, nous avons consulté le sociologue amateur de musique Antoine Aignon qui va décomplexer certains auditeurs. Il faut de tout pour faire un monde et une salle de concert, un professionnel et des amateurs dans la pratique et des amateurs, ceux amoureux de la musique.
À la limite, c'est les professionnels qui sont serviteurs des amateurs, c'est-à-dire qui n'existent que parce que cette espèce de curieuse instauration qu'est ce monde musical en a besoin pour que des gens aiment la musique.
Le degré de péjoration du mot amateur dépendrait aussi, Saskia, du domaine artistique dans lequel on l'emploie. Et la musique classique apparaît comme une sphère bien élitiste, mais on peut aussi se cacher derrière ce mot amateur pour éviter une attente trop élevée de l'autre. Lorsqu'on dit par exemple « Oh, je ne suis qu'un amateur », son emploi peut donc aussi nous rassurer. Écoutons Antoine Aignon.
C'est sûr que dans l'usage du mot amateur très très large, il y a cette idée d'une sorte d'excuse. C'est très présent en musique. Il y a des arts où personne ne s'excuse de mal dessiner ou de ne pas être peintre pour regarder un tableau. « Ouh là là, j'y connais rien » aussi. C'est une autre phrase très significative. C'est pas parce que vous savez pas le solfège, je veux dire, la plupart des jazzmen ne savaient pas. Ils jouaient très bien. Si vous entendez une musique qui vous plaît, il n'y a pas à se dire « je n'y connais rien ».
Et nous écoutions Antoine Aignon, sociologue, à votre micro, Marie, merci. Et puis réaccordons-nous donc au sujet du mot amateur, le nom lui, sa superbe, et souhaitons-lui la même évolution que le mot mélomane, qui à la base, en grec ancien, dénotait un côté un peu malsain et désignait le fou de musique, comme le suffixe man l'indique, mania, la folie. Merci Marie pour ce reportage et à la semaine prochaine. Thank you.
Le final du Quatuor numéro 14 de Mozart, interprété ici par l'excellent Quatuor Van Kuyk, un extrait de ce nouveau disque qui vient de paraître sous label Alpha en partenariat avec France Musique. Un disque dont je vous parlerai très certainement la semaine prochaine. Il est 8h31. Et c'est l'heure de la chronique battement de cœur de Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
À quelle polyphonie vocale allons-nous nous intéresser aujourd'hui ?
Alors comme vous savez, on a un grand choix, parce que la polyphonie vocale, ça va de l'intime jusqu'à l'infiniment grand. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à des grandes masses chorales. Il y a des œuvres, des chefs-d'œuvre absolument fascinants. Et pour commencer tout de suite, le Rex Tremendae du Requiem de Berlioz avec le chœur de Radio France, l'ONF, dirigé par Bernstein.
Yeah.
Et c'est vrai que ça en concert, ça décoiffe Marc-Olivier. Alors d'où vient cette fascination des compositeurs pour les grandes masses chorales ?
Alors vous savez que les compositeurs sont des êtres très étranges et on peut penser en l'occurrence que ce qui les a amenés à écrire pour des grandes masses, c'est l'écriture musicale, l'écriture sur du papier à musique, puisque dès la Renaissance, on a notamment avec Thomas Tallis, on a des chœurs à 40 voix. Le baroque accentue la tendance avec notamment le double chœur, Saint-Marc de Venise, ces deux chœurs qui se font face et qui permettent l'invention de la stéréo avant l'électricité. C'est magique. Le baroque, dont Bach, qui a évidemment beaucoup utilisé le double chœur, l'antiphonie dans ses œuvres. Mais c'est surtout à la fin du XVIIIe ou XIXe siècle, et notamment dans l'élan de la Révolution française, que cette folie du nombre s'est affirmée. Elle s'est affirmée pour des raisons à la fois politiques. Il fallait, dans l'élan de la Convention, il fallait politiquement convaincre avec des grands chants révolutionnaires. Et puis, c'était aussi la nécessité du plein air. Évidemment, acoustiquement, il fallait du grand spectacle.
Alors, comment sont réparties les voix ? Elles ne chantent évidemment pas toutes la même mélodie.
Alors les voix de femmes et d'hommes sont réparties souvent à partir de la nomenclature classique, soprano, alto, ténor et basse, mais divisées, c'est-à-dire il y a plusieurs parties de soprane, plusieurs parties de ténor, de basse, et donc on peut aller jusqu'à un nombre de voix très important pour avoir des grands accords et avoir une plénitude vraiment riche et belle. Et puis il y a aussi ces alternances de chœurs qui peuvent être spatialisé ou non, c'est-à-dire des réponses, des masses qui répondent à d'autres masses.
Mais je crois que l'ensemble correspondance fait ça régulièrement d'ailleurs. Alors comment est-ce possible d'empiler ces dizaines, ces centaines de voix pour que cela sonne bien ?
Alors, il faut faire très attention parce qu'un petit trait de plume peut engendrer des catastrophes acoustiques. Donc, l'idée est de soit d'avoir des chants très simples, c'est-à-dire le chant des partisans, des chants révolutionnaires, comme on en a eu beaucoup au début du 19e, ou bien, au contraire, un contrepoint très, très tramé, tressé, où finalement tout se mélange de façon pas toujours distincte, syllabiquement parlant, mais ça donne un effet de masse tout à fait formidable. Alors, c'est un peu comme en peinture, d'ailleurs, ce côté très pompier, très développé, comme la peinture du 19e avec David, Meissonnier, enfin tous ces grands peintres qui ont peint les merveilles gigantesques qu'on peut voir au Louvre. Alors, cette écriture flamboyante a donné toutes sortes de superbes démesures, et l'une des compositions les plus extraordinaires au tournant du siècle pour les grandes masses chorales, ce sont les Gurlieder d'Arnold Schönberg. Alors, on va entendre de Schönberg, dirigé par Esa Pekka Salonen, le chœur et l'orchestre de Philadelphie, dans un extrait de ces Gurlieder.
Combien de chanteurs, plus ou moins ?
Ça
doit être impressionnant.
Ça peut se faire avec presque sans limite. Il faut un très gros orchestre qui est écrit comme ça par Schönberg. Et puis, ça peut être 100, 200 chanteurs.
Faisons-nous plaisir. Merci beaucoup, Marc-Olivier.
Merci,
pour
ça
cette chronique qu'on écoute sur francemusique.fr. On vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Alors moi, je vous propose de retrouver un plus petit ensemble, le chœur du King's College de Cambridge. Je ne sais pas s'ils sont 200.
Reposant.
Voilà, dans une œuvre de Gabriel Fauré, ce magnifique cantique de Jean Racine.
Thank you.
Le cantique de Jean Racine, Gabriel Fauré, ici avec le chœur du King's College de Cambridge, Stephen Cleobury, à la direction, une œuvre que vous pourrez entendre sur scène demain à l'Auditorium de Radio France à 16h, demain dimanche 20 octobre, à l'occasion du premier concert a cappella de la saison du chœur de Radio France. Le chœur proposera un très très beau programme de musique vocale française, dirigé par sa directrice musicale Martina Batic. Concert que j'aurai par ailleurs le plaisir de présenter, venez donc nous rejoindre demain à 16h. Et puis ce deuxième concert à signaler, plus proche de nous, toujours du chœur de Radio France, ce sera ce soir à 19h, à l'Auditorium Angèle et Roger Triboulois à Bondy, chœur de Radio France, qui proposera aux jeunes et aux familles de découvrir en musique les merveilles qu'offre la nature au fil du temps et des saisons, à la direction Lionel Sceau. Il est 8h40 sur France Musique, c'est l'heure d'accueillir notre invité.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et c'est l'heure d'accueillir notre invité. Bonjour Alexandre Aymard Dunker.
Bonjour Saskia Deville.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes directeur exécutif de la Grange au Lac, cette si belle salle qui se situe à Évian. Une salle avec une grande histoire aussi.
Une salle avec une grande histoire qui a été inaugurée en 1993, qui a fêté en 2018 son 25e anniversaire en accueillant notamment et France Musique s'en rappelle, les victoires de la musique classique. C'est une salle sublime, on a énormément de chance de pouvoir utiliser un outil tel que celui-là. Et une salle totalement en bois, avec une conque en pétales d'aluminium, d'un volume de 1100 places, avec malgré tout une proximité immédiate avec le plateau. Le public est vraiment quasiment sur le plateau avec les artistes, donc il y a une proximité qui est très chaleureuse.
Et c'est ça que j'allais dire, c'est vrai que c'est une salle extrêmement chaleureuse et il doit rester des vidéos d'ailleurs de cette cérémonie des victoires en ligne, c'était en 2018. La Grange au Lac qui accueille, et c'est pour ça qu'on vous reçoit ce matin Alexandre Mardinker, le Festival des Voix d'Automne, festival d'art lyrique qui en est à sa deuxième édition. Il n'y avait pas assez de voix jusque-là dans la programmation de la Grange au Lac.
Alors justement, c'est la Grange au Lac, on la considère un petit peu comme un instrument de musique et on essaye tout au long de l'année, maintenant qu'on porte une véritable saison, on essaye de la mettre en lumière sous différents aspects, un aspect vocal au mois d'octobre, un aspect plutôt autour du piano sous toutes ses formes au mois de mai, évidemment les rencontres musicales d'Évian, donc répertoire chambriste et augmenté jusqu'au répertoire symphonique, un moment aussi jazz au mois de février. Et en fait, c'est une façon d'illustrer ce qu'elle peut donner de meilleur dans différents répertoires, dans différentes formes. Et donc là, ce premier événement de l'année, puisque c'est le premier festival de la saison, Voix d'automne en partenariat avec l'Opéra National de Paris.
Et on va en parler, bien sûr. Alors, le festival a démarré hier soir. Il reste, heureusement pour vous, chers auditeurs, des tas de concerts à aller voir tout au long du week-end et dont on va parler, bien sûr. Ça se passe donc à la Grange au Lac jusqu'à demain, à Évian-les-Bains, donc. Deuxième édition de ces Voix d'automne. Eh bien, je vous propose d'écouter un extrait de l'une des œuvres qu'on pourra entendre.
Thank you.
Un extrait des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, cette danse du grand calumet de la paix que vous avez choisi pour nous ce matin, Alexandre Desmardin-Kerr. Pourquoi ce passage-là, plus précisément, de cette Indes galantes?
Parce que c'est sans doute l'un des tubes, sinon le tube des Indes galantes de Rameau. C'est un moment qu'évidemment on a dans l'oreille, c'est vers la fin de l'opéra. C'est un moment assez incroyable. C'est une pièce assez incroyable, cette tragédie lyrique qu'on a la chance de pouvoir accueillir sur le plateau de la Grange-Lac en version de concert cette fois-ci, donc après la production accueillie dans le cadre du 350e anniversaire de l'Opéra de Paris sur le plateau de Bastille. Et bien nous on accueille à Évian, on a la chance de pouvoir accueillir à Évian cette version de concert des Indes galantes avec le plateau artistique, les chanteurs qui chantaient encore il y a quelques jours sur le plateau de Bastille.
Exactement, et une bien belle affiche. On va quand même citer quelques-uns de ces chanteurs: Sabine Devielle, Julie Fuchs, Mathias Vidal, Alexandre Duhamel, et puis dans la fosse, ou du moins aux côtés des musiciens ici pour cette version de concert, la Capella Mediterranea et Leonardo Garcia Larcon. Ce sera à découvrir ce soir à la Grange-Lac à 20h, évidemment, dans le cadre de ce festival Voix d'automne. Vous êtes, Alexandre Desmardin-Kerr, notre invité ce matin. Vous êtes directeur exécutif de la Grange-Lac. Il y a d'autres concerts, bien évidemment, prévus, notamment un concert à 11h du matin. Alors, pas à la Grange-Lac, c'est dans un autre lieu. Vous aviez envie d'inviter les spectateurs à l'heure du petit déjeuner, presque.
Oui, c'est pas un concert du déjeuner, c'est un concert du presque petit
voilà,
déjeuner.
Presque.
Alors, ce sera au Palais Lumière, donc en centre-ville d'Évian, un concert avec l'Académie de l'Opéra de Paris, Benjamin Laurent et Vladimir Kapchouk qui vont nous offrir une itinérance musicale autour du mythe de Don Quichotte. Des airs illustrant cette itinérance musicale.
Et c'est vrai que ce mythe a inspiré beaucoup de choses à beaucoup de compositeurs.
Bien sûr, on va retrouver des compositeurs comme Ravel, comme Massenet. On va même achever ce concert avec une chanson de Jacques Brel. Bref, alors évidemment, Don Quichotte, le titre lui-même, mais des chansons qui ont été inspirées du mythe de Don Quichotte.
Alors, la petite particularité tout de même de ce concert, c'est qu'il sera effectivement donné par deux artistes de l'Académie de l'Opéra de Paris, qui fête ses 4 ans cette année, l'Académie de l'Opéra de Paris. Et à l'occasion du 350e anniversaire de l'Opéra de Paris que vous évoquiez tout à l'heure, Alexandre Desmardin-Kerr, eh bien, vous avez souhaité vous associer aux festivités en accueillant non seulement ces deux artistes-là, mais d'autres membres de l'Académie également durant le festival.
Oui, alors pour nous c'était très important de puisqu'on est en partenariat avec l'Opéra de Paris et en particulier avec l'Académie de l'Opéra de Paris. On voulait cette année, pour cette deuxième édition, célébrer le 350e anniversaire de l'institution, et ce sera notamment ce concert de dimanche matin qu'on appelle Miroir d'Armide et qui retrace la période qui va de la création de l'Académie royale de musique en 1669 jusque la fin de l'Ancien Régime. Donc c'est une période qui nous permet de redécouvrir des titres de Lully, de Gluck, en passant par Rameau, et donc sans oublier, un peu à la manière d'un prologue, y compris dans ce concert de dimanche, une pièce de Luigi Rossi, l'Orfeo de Luigi Rossi. C'est aussi une façon de se rappeler que l'histoire de l'Opéra de Paris, l'histoire de l'opéra français, doit beaucoup à l'Italie, doit beaucoup aux créateurs italiens, et donc c'est une façon de revenir sur l'histoire de l'Opéra de Paris, c'est une illustration de ce début d'histoire, le début de l'Académie royale de musique.
Et ce sera aux côtés de l'ensemble Les Ombres, dirigé par Margot Blanchard, aux côtés donc de ces artistes de l'Académie de l'Opéra de Paris. Ça va devenir une tradition, ça, Alexandre Desmardin-Kerr, pour les années à venir, d'accueillir ces jeunes et talentueux artistes.
Alors, on l'espère, en tout cas, on va travailler dans ce sens, on va essayer de rendre ce rendez-vous récurrent et d'inviter, de travailler sur les saisons futures avec l'Académie de l'Opéra de Paris. En tout cas, c'est un partenariat qui est très, très fructueux, très riche. Je pense que c'est aussi important pour une institution comme l'Opéra de Paris de venir en région aussi, puisque c'est certes l'Opéra de Paris, mais c'est surtout une institution nationale et même un rayonnement international. Donc c'est important qu'elle vienne se diffuser hors les murs, comme c'est le cas à Évian.
et dans le cadre de ces voix d'automne qui se déroulent donc jusqu'à demain à la Grange au Lac à Évian-les-Bains. Merci beaucoup Alexandre Mardincard d'être venu nous parler de ce festival ce matin et puis plein de bonnes choses pour la suite.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
À très bientôt, avec plaisir. Margot Blanchard et les ombres, ici dans un extrait de ce concerto de Georg Philipp Telemann, musiciens qui sont donc à l'affiche de ce festival Voix d'automne qui se déroule jusqu'à demain à Évian-les-Bains. Il est 8h et presque 54 minutes.
L'heure est trouvée sur le plateau.
Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chef.
Et c'est l'heure de la chronique de Roselyne Bachelot. Bonjour Roselyne.
Bonjour Saskia.
Notre soirée opéra de ce samedi vous transporte de jubilation. Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, qui viennent de rencontrer un succès historique à l'Opéra de Paris, seront à l'affiche.
Ben oui, on va continuer avec les Indes galantes.
Exactement,
ce matin.
On en parlait à l'instant.
Et nous n'aurons pas attendu longtemps pour que France Musique nous invite à partager le triomphe, un triomphe que vous avez bien fait de qualifier d'historique. La dernière s'est déroulée mardi dernier, la dernière de 12 représentations, toutes marquées par les ovations trépignantes d'un public en délire. C'est d'autant plus remarquable que souvent, à tort d'ailleurs, la musique baroque est considérée comme un genre réservé à un public de spécialistes. Rien de tout cela, et certains d'entre vous ce soir perdront toute leur prévention. On peut se demander comment on peut expliquer ce succès incroyable et inattendu. D'abord, et à n'en pas douter, par une distribution étincelante et entièrement française. On a souvent, et à juste raison, reproché à la direction de l'Opéra de Paris des castings entièrement composés d'artistes étrangers. Il y a même certains qui font des comptabilités et certains ont chiffré que certaines années, les chanteurs français, ça ne dépassait pas 6%. Bon, Il est effectivement parfaitement légitime que des grandes vedettes étrangères du lyrique soient invitées. Elles remplissent les salles, c'est bien normal. Mais cette quasi-absence était choquante. Là, donc, je dis... Il est 100% français, ce casting, 100% homogène et 100% au top. C'est d'autant plus important que les textes sont dans le plus pur style précieux du 18e. Hymen vient nous unir d'une chaîne éternelle, vient encore de la paix embellir les beaux jours. On est loin de salut mon pote, hein. Je veux citer tous ces jeunes artistes, un trio de barytons, Florian Sempé, Alexandre Duhamel, Edwin Crosley-Mercer, si si, il est français malgré son nom, hein, qui s'inscrivent dans la prestigieuse lignée des barytons français de Victor Morel à Ludovic Tézier. Deux ténors, Stanislas de Barbérac et Mathias Vidal, impeccables d'intensité, et trois sopranes, Jody DeVos, Julie Fuchs et Sabine Devienne.
Jody DeVos est belge, hein, on va quand même le préciser. Hein,
oui, elle est francophone. Oh, moi, je la considère comme française. Voilà. Je l'ai naturalisée. Et Sabine Devielle, j'aurais dû dire francophone. Vous avez raison. Toutes trois en délicatesse, en chanteresse. Le chœur de chambre de Namur les accompagne avec brio, semble transporté par les danses que les membres du chœur exécutent. Mais au fait, vous allez me dire, mais il s'agit d'un opéra-ballet et n'écoutez que la musique va nous priver d'un des attraits majeurs de l'œuvre. Bon, la musique de Rameau se suffit elle-même, bien entendu. Mais surtout, le metteur en scène Clément Cogitor a confié les ballets à une troupe de hip-hop, la compagnie Rualté, complètement déjantée, qui donne à la musique une trépidation rythmique et hypnotique qui vous plonge en transe. Vous découvrirez ainsi l'intensité donnée par le crump, cette danse née à Los Angeles, Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise, ça veut dire l'élévation du royaume par le puissant éloge. Et ce sont les spectateurs qui décollent littéralement de leur siège. Et c'est très intéressant que vous ayez passé, il y a un instant, la danse du calumet de la paix dans une version classique. Parce qu'ensuite, ce soir, vous allez l'entendre sous la baguette de Leonardo Garcia Alarcón, avec cette trépidation qui est donnée par les danseurs. Et là, vous verrez à quel point la rythmique du ballet vient en quelque uplifter ainsi la musique. Alors, j'ai voulu que nous nous reposions.
C'est samedi matin.
Voilà, c'est samedi matin et je vais vous inviter au mariage avec un aria subtil, Viens Hymen, par la soprane Sabine Devielle.
Sabine Devielle, ici dans un extrait de Saison de Galante de Jean-Philippe Rameau, à écouter ce soir à 20h sur France Musique dans Samedi Soir à l'Opéra avec Judith Chen. Vous pouvez écouter France Musique, mettre les images sur Arte concert puisque la production a été filmée, ou alors aller écouter tout simplement Saison de Galante à Evian, nous en parlions
c'est
tout à l'heure.
Aussi.
Rameau est partout aujourd'hui. Merci beaucoup Roselyne pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr. Alors ce matin je vous proposais de gagner vos places pour aller à l'opéra, pour aller voir une autre production, Manon de Jules Massenet, au cinéma, opéra diffusé en direct depuis le Metropolitan Opera de New York. Ce sera le 26 octobre prochain, 18h55 au cinéma Mégarama de Bordeaux. Il fallait pour cela reconnaître une voix et c'était bien sûr celle d'Angela Giorgiou. Les gagnants seront recontactés par email très prochainement. Merci à toute l'équipe qui était à mes côtés ce matin. Marie-Ferdinand, Laurent Lefrançois, Guillaume Ledu, Victoria Asper, Valentin Beminet et Emmanuel Rose. Et merci à vous de vous brancher sur France Musique le samedi matin. Je vous souhaite une très belle journée.
À réécouter sur francemusique.fr.